Bonjour tout le monde, bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour, j'ai dit bonjour à tout le monde. C'est l'heure du podcast des maternelles, c'est Benjamin Muller, podcast des maternelles, un podcast France Télévisions avec des accents de Noël, vous allez l'entendre aujourd'hui. Oui, pourquoi des accents de Noël? Parce qu'aujourd'hui, on voulait une belle histoire à quelques jours de Noël. Eh bien, justement, on va recevoir Constance. Constance, je dis que c'est une belle histoire. Après coup, bien sûr, parce qu'en le vivant, je suis pas sûr qu'elle l'a vécu comme une belle histoire. Constance a accouché un 19 décembre dans le coffre de sa voiture. Voilà. Alors, je dis que c'est une belle histoire parce que tout s'est bien terminé et que maintenant, voilà, ça fait partie des histoires que Constance raconte, avec le sourire en plus, parce qu'elle est comme ça, Constance, même si, imaginez, accoucher dans sa voiture, alors je sais pas quelle voiture elle avait, mais bon, ce n'est pas l'idéal. Donc on va entendre Constance, et puis après on sera avec une sage-femme qu'on aime beaucoup, Khadidia Traoré, qui nous donnera les bons conseils si vous aussi vous êtes en train de nous écouter, et bah, si vous aussi, demain, vous êtes amené à accoucher de manière impromptue dans un coffre de voiture ou dans un train, pourquoi pas, dans un métro, ça doit être sympa d'accoucher dans le métro, surtout le métro à Paris, ça doit vraiment être sympa. Allez, j'arrête, on écoute Constance, c'est parti.
Alors bien sûr, quand on est enceinte, on passe 9 mois, imaginez la façon dont on va accoucher, c'est bien normal. Parfois, on rédige même un projet de naissance, on se dit tiens, je vais mettre telle musique, ouais, je me fais une playlist, tiens, je vais peut-être accoucher dans cette lumière, avec cette position et tout. Et puis le jour J, il faut faire avec ce que le bébé décide en fait. Bonjour Constance.
Bonjour.
Ça, vous l'avez appris à vos dépens. Il y a un an, les fêtes de Noël approchaient, votre troisième bébé était prévu pour le 3 janvier. Tout était sous contrôle, tout allait bien. Vous étiez loin de vous douter que vous alliez mettre votre bébé au monde dans le coffre de votre voiture, en toute simplicité. Merci pour nous d'être là pour nous raconter cet accouchement épique et fabuleux. Alors, vous êtes la maman de 3 garçons, Constance, Noé qui a 5 ans, Ezra bientôt 4 ans, et donc Eden qui aura 1 an dans quelques jours, dans 2 jours même. Pour Eden, est-ce que vous aviez des projets particuliers, des envies particulières pour votre accouchement?
Alors, pour Eden, j'avais juste envie d'accoucher sans péridurale, comme j'avais eu envie pour les 2 autres, mais j'avais pas réussi parce que trop mal. Et là, l'idée, en fait, c'était que j'accouche au moins quand les vacances auraient commencé, parce que ma mère devait arriver chez nous pour garder les autres au cas où.
Donc, vous aviez déjà tout organisé pour la garde des 2 aînés?
Ouais, parce qu'on n'a pas de famille dans notre région, et du coup, maman devait descendre pendant les 15 jours de vacances, en fait.
Alors, est-ce que pour les 2 grossesses précédentes, il y avait eu des petites alertes où vous vous étiez dit « oulala, ça se trouve, j'aurais pas le temps d'aller à la maternité ».
Non, j'ai pas eu d'alerte. Après, j'ai accouché relativement vite pour un premier et le deuxième, pareil, quoi.
Oui, mais bon.
Mais bon, voilà. Rien d'alarmant. À chaque fois, je me suis dit « oh là là, il va sortir tout de suite ». Et puis en fait, non, j'étais pas sur le point d'accoucher, quoi.
Bon, alors, tout commence par une séance d'acupuncture. Ouais. Comme quoi, l'acupuncture, c'est magique. Ouais. Racontez-nous ce qui se passe ce jour-là.
Alors, en fait, le vendredi, la veille de mon accouchement, je suis partie faire de l'acupuncture chez ma sage-femme. J'en avais déjà fait un peu pendant la grossesse pour me détendre. J'étais plutôt réceptive. Donc là, l'idée, c'était de faire une séance pour aider au travail si mon col était favorable. Donc j'y vais le matin. À ma grande surprise, mon col était déjà ouvert à 2. Elle me fait la séance, donc tout était favorable. Après, je rentre chez moi, je dis à mon mari, écoute, c'est fait, peut-être que je vais accoucher aujourd'hui, sinon demain, et puis sinon, j'accoucherai pas, quoi. Ouais. Et donc voilà, je suis partie, j'avais rien, pas de contraction, pas de...
Tout le reste de la journée, ça a été
rien du tout, je me suis dit, c'est bon, ça sera pas pour maintenant, laisse tomber.
Bon, alors dans la nuit, c'est pas la même quand même.
Non, vers 2h du mat, du coup, j'ai commencé à avoir quelques contractions, mais pas douloureuses, pas celles que j'avais eues pour mes 2 précédents accouchements, à savoir dans les reins. Mais je me suis dit, j'ai fait l'acupuncture, donc forcément, ça doit être l'accouchement qui s'annonce. Donc je me suis levée, j'ai dit à Karim, mon mari, réveille-toi tranquillement, je vais accoucher tout à l'heure.
Et donc, saviez quand même que c'est... Là, vous sentiez que c'était quand même dans les heures qui arrivaient.
Parce que j'avais fait l'acupuncture.
Oui, c'est ça.
Donc je me suis dit, c'est que ça marche, quoi.
Bon, alors cela dit, donc vous le dites, les contractions ne sont pas très douloureuses, vous n'avez pas cette fameuse douleur au rein. Sauf que Karim se lève, et là, ce n'est pas une douleur comme les précédentes.
Là, ça m'a saisie, j'ai hurlé de douleur. Donc, il a réveillé les enfants, j'ai été prendre une petite douche. J'habite en fait une maison à étage. Donc, en montant et en descendant les escaliers, je pense que ça a joué aussi sur l'accélération du travail. Et donc il a levé les petits. Moi, j'étais à 4 pattes par terre en train d'hurler à la mort, je vais accoucher, il me faut la péri. Là, il donne le petit-déj tranquille aux enfants. Donc, je me dis, il n'a rien compris au truc.
Vous l'avez engueulé?
Ouais, ouais. Je lui ai dit, dépêche-toi d'aller les installer dans la voiture. Donc, il est parti les mettre dans le siège auto. Enfin, les deux dans leur siège.
Et là, vous avez conscience que vous êtes en train d'accoucher, là, déjà?
Non. Enfin, non, parce que j'ai très mal. Mais avec les deux autres, j'avais déjà eu les contractions ultra douloureuses. Et bon, j'accouchais pas non plus dans la seconde qui arrivait. Donc, je savais que j'allais accoucher. Mais je me suis dit, on aura le temps d'arriver quand
et
même.
Combien de temps pour aller à la maternité?
15-20 minutes à peu près.
Ah oui, ça va.
Ouais, ouais.
Oui, mais donc bon, vous n'aviez pas de raison d'être inquiète.
Non, je me suis dit, voilà, je vais arriver, j'aurai peut-être pas la péri, mais j'aurai le temps d'y arriver, mm-hmm. quoi. Et donc, il est revenu me chercher en haut. Il m'a aidée à descendre. En bas, j'ai une contraction de la mort où j'ai hurlé et là, je chantais quelque chose entre mes jambes, quoi.
Ah oui, carrément.
Ouais, ouais, je me suis dit, ben non, c'est pas le moment, en fait. Enfin, en plus, je voulais vraiment pas accoucher chez moi dans mes escaliers. Enfin. Et donc, il m'a aidé à monter dans la voiture. On est parti.
Avec les deux autres qui sont sur leur siège auto.
Avec les deux autres derrière, tranquille, la vie est belle, voilà. Mmh. On y va. Et les 3 minutes de répit, en fait, entre deux contractions, on a roulé. Et là, je lui ai hurlé, arrête-toi, appelle les pompiers, je vais accoucher. Donc là, il s'est arrêté quand même.
Oh là là.
Et beaucoup de chance, parce qu'en fait, c'est dans une rue avec des larges trottoirs. Donc, il a pu se garer. Il a appelé les pompiers. Moi, je suis sortie de la voiture, débardeur, transpirante, alors qu'il faisait froid.
Oui, on est quelques jours avant Noël.
C'est ça. J'étais à 4 pattes sur le trottoir en train d'hurler.
Ouais,
et donc là, les pompiers lui ont dit, mettez-la quand même dans la voiture. Sauf que derrière, il y avait les enfants. Donc, il m'a installée dans le coffre de la voiture. Heureusement qu'il est grand et qu'en fait, il s'ouvre. C'est un peu comme un break. Il s'ouvre en entier, en fait. Donc, j'étais à hauteur pour qu'il voit mes jambes, quoi. Donc, il m'a aidé à monter. Au moment où je monte, en pliant les jambes, j'ai perdu les os. Donc, je crie, je perds les os. J'étais complètement paniquée. Surtout, je n'avais jamais perdu les os. Pour les autres, on m'avait percé. Donc là, je me suis dit, oh là là, je perds les os, machin. Il m'a allongée avec les pompiers au téléphone. Il m'a baissé le pantalon.
Oui, donc vous avez toujours les pompiers quand même
au téléphone,
en ligne,
ouais.
Qui vous donnaient des conseils?
Il donnait à Karim, il lui disait, allongez-la dans la voiture, baissez le pantalon, qu'est-ce qui se passe?
Et les enfants, ils étaient dans quel état à ce moment-là?
Ezra, lui, il est dans un siège avec harnais, donc il a, il faisait sa petite vie, quoi. Et Noé s'est retourné en mode normal, voilà, maman accouche, mon frère va naître.
Ah, c'est chouette.
Ouais, ouais, c'était super chouette.
Alors, vous êtes donc dans le coffre.
Ouais, je suis dans le coffre, le pantalon baissé aux chevilles. Et là, quand il a baissé mon pantalon, du coup, il a dit au pompier, joue à la tête. Donc moi, ni une ni deux, hop, une petite poussée, parce que je me suis dit, faut que je le sorte, parce que non seulement j'avais mal des contractions, puis je me suis dit, lui, le pauvre, enfin, il va pas rester coincé comme ça.
Ouais.
Donc, il a réceptionné le petit. Il l'a mis dans mon manteau.
Oh. Ouais.
Et puis là, on a entendu un petit miaulement quand même. Je me suis dit, bon, c'est bon, il est vivant. Et après, il me l'a mis contre moi.
Comment ça s'est passé, ce moment? Qu'est-ce que vous avez ressenti?
Moi, j'étais complètement à l'ouest. Vraiment, comme si j'avais fumé. J'étais ailleurs, en fait. Je ne captais pas ce qui se passe. Karim, lui, hyper terre à terre. En plus, il est militaire, donc ça aide, je pense, à rester terre à terre. Il avait fait encore un stage de premier secours, là, donc il s'est rappelé qu'il faut rester tranquille, respirer, enfin, que ça ne sert à rien de s'agiter. Et moi, je pensais à, j'ai pas envie de mourir, hein, j'avais peur de mourir quand même dans la douleur. Je ne voulais pas que mon bébé soit mort non plus. Donc j'ai suivi mon instinct, je réfléchissais plus en fait. C'est mon corps qui a travaillé, quoi.
Et alors, vous qui ne vouliez pas allaiter? Vous êtes quand même dit bon.
Au bout d'un petit moment, en fait, après, donc je l'avais contre moi. Après, le SMUR est arrivé. Mm-hmm. Donc j'étais dans le camion du SMUR, mais bon, je suis restée sur place, en fait, un petit moment. Et donc je me suis dit, le pauvre, il doit avoir faim. Donc je lui donnais un peu de tétée, quand même. Mm-hmm.
Parce qu'il faut dire que vous veniez de sevrer votre deuxième. Ouais. Donc vous étiez dit, bon, allez, recommencer un allaitement, vous n'aviez pas trop le courage.
Non, je n'avais pas du tout envie d'allaiter de nouveau, mais bon, là, voilà, il disait trop rien, en fait. Je l'avais contre moi, il était tout chaud. Je le sentais un peu bouger, mais je me suis dit, il ne pleure pas, il ne dit rien. Donc je lui ai donné un peu de tétée. Et puis, ça s'est passé.
Il se portait comme un charme.
Oui, il se portait comme
un
charme.
Le lien s'est fait tout de suite entre vous deux.
Tout de suite. Mmh. Et puis, quand on est arrivé à la maternité, il était à 35 degrés, donc il ne s'était pas trop refroidi, en fait, d'être contre moi comme ça.
Et le SMUR, ils ont fait quoi, alors? Ils vous sont occupés de votre placenta et tout ça sur place, ou ils ont attendu de vous emmener à l'hôpital?
Non, alors je suis restée sur place parce qu'en fait, j'avais de nouveau des contractions. Mais comme j'avais pas la... enfin, comme pour les autres, plutôt, j'avais la péri, je ne sentais pas les contractions de la délivrance. Donc là, en fait, je lui dis « Ah là là, j'ai mal, j'ai des contractions. Il me faut un antidouleur. » Donc, il se préparait à me perfuser, de morphine, un truc comme ça. Et en fait, j'ai dit « Ah, j'ai envie de pousser. » Il me dit « Bah, pousser. » En fait, c'était le placenta.
Oui, tout simplement.
Et donc, tout est sorti tranquille. Et puis, on est parti à la maternité. Enfin, il y a mon mari, quand même, qui est venu couper le cordon.
Ah oui.
J'ai demandé est-ce qu'il peut venir couper le cordon alors que d'habitude, on n'aime pas trop ça. Donc là, j'ai dit, est-ce qu'il peut couper le cordon quand même ?
Vu l'aventure et la singularité de l'accouchement, on pouvait faire quelque chose de singulier aussi. Vous avez séjourné à la maternité du 19 au 22 décembre. Donc, vous êtes sortie pile poil pour les fêtes de Noël. J'imagine que ça a dû être un Noël inoubliable.
Ouais, c'était. En plus, j'étais en pleine montée de lait, donc avec les feuilles de chou dans le soutif, en train de préparer le réveillon. Et c'était, c'était inoubliable. Enfin, je pense que ça restera toujours inoubliable et un peu choquant en fait. Enfin, un beau moment, mais en se disant, mais est-ce que ça s'est vraiment passé, quoi ? Est-ce qu'on a vraiment fait ça ? Enfin, est-ce que c'est pas arrivé à quelqu'un d'autre ? Et c'était de belles fêtes. C'était super, parce qu'en plus, du coup, on a pu profiter en famille.
Ah oui, c'est ça. Est-ce que les grands, ils parlent de cet événement ? Est-ce que ça a été marquant pour eux ?
Marquant, mais pas de façon négative. Enfin, pour eux, normal, quoi. Leur frère aîné. J'avais prévenu l'école, quand même. J'avais fait un petit mail aux maîtresses en disant « Bon, j'ai accouché dans la voiture, donc vous étonnez pas s'ils racontent des choses. C'est pas bizarre, c'est normal. » rien de... Pour eux, c'est pas... Enfin, rien de...
Il va avoir... Eden, il a un an dans deux jours. Il faut faire le quatrième, là.
Bientôt.
C'est vrai ? C'est un projet ?
C'est en projet, ouais. C'est en projet. Pas tout de suite, mais j'ai quand même un peu d'appréhension, forcément, par rapport
Non, mais comme vous a dit votre sage-femme, si jamais il vient avant la maternité, c'est que tout va bien.
Ouais, mais je plaisantais avec elle. Hein. Je pensais pas que ça allait m'arriver.
Et on accueille Khadidia Traoré. Bonjour Khadidia. Vous êtes sage-femme à la maternité des Bluets à Paris. On a reçu beaucoup de questions de téléspectateurs sur ces fameux accouchements inopinés. Alors, on a vu Karim, là, le conjoint de Constance. Okay. Franchement, il a brillé par son flegme, son sang-froid. Il a tout de suite enveloppé Eden dans son manteau. Ça, je crois que c'est un très, très bon réflexe. Mais à quoi est-ce qu'on doit être particulièrement attentif quand on a un accouchement comme ça à la maison ou dans un endroit insolite ?
Rapide. Donc le plus important, effectivement, il a très bien agi, il a enveloppé le bébé. Donc le risque premier, c'est vrai que c'est l'hypothermie, donc que le bébé attrape froid. Donc c'était une très bonne chose de le couvrir. Le poser sur maman, c'est idéal parce qu'en fait, le pot à peau, c'est ce qui permet de maintenir la température du nouveau-né au maximum, c'est le plus optimum. Donc c'est très bien ce qu'il a fait. Et surtout garder son calme, hein, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est hyper, hyper, hyper important. Vraiment.
Oui, c'est ça, essayer de respirer, souffler, vous dire, allez, on fait quelque chose de naturel, il n'y a rien de grave. Oui. Quel est le plus grand risque, en fait ? Parce qu'on dit souvent, on l'a dit beaucoup dans cette émission, si un accouchement inopiné, c'est que c'est un accouchement qui roule, quoi, en fait.
Qui se passe bien, exactement. C'est vrai que c'est ce qu'on dit. Plus c'est rapide, plus ça se fait rapidement, plus effectivement...
Il y a moins de risques.
Moins de risques, parce que ça veut dire que tout se passe bien. La plupart du temps, c'est vraiment ça. Le risque premier, effectivement, de l'accouchement inopiné, c'est que le bébé ne respire pas à la naissance. Il faut savoir qu'on a 60 secondes avant que le bébé pousse son premier cri. 60 secondes pour la maman et pour papa, c'est hyper long. Ouais. Mais dans la réalité, c'est une minute, donc c'est hyper rapide. Donc il faut se dire que... Le bébé aussi, il vient d'atterrir, il faut lui laisser le temps de s'adapter. Et 60 secondes, on lui laisse le temps et il va respirer tout seul.
On a un coup de chaud quand même. Hein, 60 secondes.
Effectivement, 60 secondes, c'est long pour nous, mais c'est vrai que pour le bébé, en fait, c'est le temps qu'il lui faut vraiment pour s'adapter à l'air extérieur et se dire que voilà, ça y est, je suis dehors et qu'il faut que je respire tout seul.
Les pères, ils assurent toujours comme Karim, j'imagine.
Pas tous, effectivement, mais la plupart du temps, en fait, on agit par logique et la nature fait bien les choses. Ouais. Et souvent, instinctivement parlant, les choses se font et ils gèrent.
Bien sûr, on gère. Marion, qui elle aussi a accouché inopinément à son domicile, a une question pour vous. Regardez.
Bonjour Marion, j'habite dans l'Hérault. J'ai accouché chez moi inopinément le 14 février 2021, accompagnée de mon conjoint. Tout s'est incroyablement bien passé. Notre deuxième enfant est né encore dans sa poche des os. Et ma question est, dans le cas où le bébé naît dans la poche des os, quels sont les gestes à adopter ?
Bon, alors là, laisse tomber. Karim, il aurait assuré, mais je ne sais pas.
Effectivement, les premiers gestes à adopter, donc toujours, je me répète, mais c'est hyper important de garder son calme. Un bébé qui naît dans sa poche des os, c'est extrêmement rare. Chez nous, on dit que ça porte chance. Dans notre jargon à nous, on dit que c'est un bébé qui est né coiffé, parce qu'il est né coiffé par sa poche des os. Donc c'est très beau à voir, parce que en fait, il pense qu'il est encore à l'intérieur. Ouais. C'est exceptionnel. Franchement,
enfin,
c'est pas donné.
La panique,
c'est la panique pour les parents, mais pour nous, c'est exceptionnel. Et surtout, c'est pas donné à tout le monde de voir ça.
Vous êtes déjà arrivé, vous
Franchement, ça fait 3 ans que je travaille maintenant, et j'ai eu la chance de pouvoir le voir, mais qu'une fois. Et franchement, c'est beau, quoi.
Oui, on est là, on voyez est comme ça. Exactement déjà. Comment il est dans le ventre de
dans
sa maman.
Dans le ventre de sa maman. Et lui pense qu'il est encore à l'intérieur, quoi. Ah ouais. Donc c'est impressionnant de se dire qu'en fait, il est dehors. Nous, on a la possibilité de le voir comme ça, mais lui pense qu'il est encore à l'intérieur, donc il est là, il bouge.
Mais ce qui est extra, c'est qu'en plus, du coup, vous pouvez beaucoup mieux gérer son arrivée au monde. Quoi.
Exactement.
C'est moins violent.
C'est moins violent parce que, en fait, effectivement, la poche, elle est déjà à l'extérieur. Donc la chose que nous on fait à l'hôpital, c'est vrai qu'on perce la poche avec une petite aiguille stérile. Bon, là, quand on accouche à l'extérieur, on n'a pas tout ce matériel-là. Donc ce qui est nécessaire de faire, c'est vraiment avec ses mains, tout doucement, une petite, délicatement, vraiment d'ouvrir la poche. Franchement, c'est hyper. On a l'impression que c'est solide, mais c'est hyper friable. Ça s'ouvre rapidement. Et là, le liquide va s'écouler, le liquide amniotique. Et l'enfant, vous allez voir, tout doucement, en fait, il va commencer à crier.
Dans l'idéal, on prend une photo juste avant, non ?
Ouais, franchement.
Dans l'idéal.
Mais si on n'est pas en panique et qu'on arrive à garder son calme.
Et on la met sur Insta.
Ouais, mais là, je vais te dire, je ne vois pas qui a le réflexe quand même de prendre
une photo.
Attends, bouge pas, mais il
Karim,
est coiffé.
Karim, il aurait mis un film.
Un selfie, il l'aurait fait.
Il aurait eu le temps de la retravailler sur Photoshop et tout.
Alors, on a une autre question en vidéo d'Agathe, qui, elle, a accouché de sa fille Mao dans son jardin.
Bonjour à toute l'équipe de la Maison des Maternelles. Ma question porte sur la délivrance du placenta. Cet été, j'ai vécu un accouchement express. Cependant, j'ai délivré spontanément mon placenta près d'une heure après. J'ai toujours entendu dire qu'il fallait que le placenta sorte dans la demi-heure. Qu'en est-il vraiment ? Et autre question, si jamais j'avais délivré spontanément dans mon jardin avant l'arrivée des pompiers, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire ? Merci à vous tous, vous êtes mon petit rayon de soleil du matin. Bonne journée, au revoir.
Ça, c'est sympa.
Ouais. Effectivement, donc, une fois que le bébé est sorti, donc, ça veut dire que tout s'est bien passé, c'est le plus important, donc le bébé va bien. On le pose sur la maman. La première chose à faire, c'est qu'effectivement, nous, à l'hôpital, le placenta, il sort juste après l'accouchement, en 30 minutes. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est la délivrance dirigée. On utilise une hormone artificielle qui est l'ocytocine. Nous-mêmes, en tant qu'être humain, on la fabrique. Mais c'est vrai que ça aide, ça facilite la délivrance, donc la sortie du placenta. Au moment du dégagement de l'épaule postérieure de l'enfant, là, on injecte par voie intraveineuse l'ocytocine à la maman. Et du coup, ça facilite le placenta, la sortie du placenta. Et ça se fait en 30 minutes. Ça, c'est une règle qu'on se donne parce qu'on a, administré l'hormone à la maman. Par contre, si c'est naturel, la maman, le temps peut varier. Donc, elle peut délivrer en une heure comme en une heure et demie. Le risque premier de quoi on a peur, c'est vraiment l'hémorragie de la délivrance. Mmh. Et souvent, un placenta qui prend du temps effectivement à sortir, il empêche l'utérus de se contracter. Donc un utérus qui est toujours habité par le placenta a du mal à se contracter tant qu'il n'est pas béant. Mmh. Donc c'est pour ça qu'on veut vraiment que le placenta sorte au plus vite.
Pour la mère, c'est vraiment le truc le plus important.
C'est le plus important
pour
elle.
C'est pour ça qu'il faut quand même appeler les secours et tout ça.
Exactement, c'est ça.
Alors, il y a Emma qui vous demande, quand on voit que l'on n'attendra pas la maternité à temps, quels sont les 3 grands réflexes à avoir pour se préparer à un accouchement imminent ? C'est elle-même qui décide qu'il y a 3 grands réflexes.
Oui, effectivement, c'est vrai que 3 grands réflexes, je pense que c'est le maximum qu'on peut garder en tête au moment effectivement, au moment de la mise au monde du bébé. La première chose à faire, déjà, c'est de respirer un bon coup, tout le monde, que ce soit la personne qui accompagne que la future maman. Donc, une fois qu'on a pris un grand bol d'air, on se dit, il faut se mentaliser là, ça y est, on y est, qu'il faut y aller, il ne faut pas paniquer. Il faut respirer correctement. Déjà, ça te permet de diminuer la douleur. Et en plus de ça, on est extrêmement moins stressé et on fait les choses de façon plus calme. Il faut garder en tête un esprit positif, se dire que, voilà, comme on a dit tout à l'heure, un accouchement qui se passe rapidement, c'est un accouchement qui se passe bien, donc il ne faut pas paniquer. C'est la première chose à faire. Donc la deuxième chose à faire, c'est effectivement d'avoir une personne ressource, que ce soit le papa, la voisine, le collègue, n'importe qui, quelqu'un qui nous fait du bien, quelqu'un qui va nous accompagner pour cette épreuve-là, une jolie épreuve, mais qui nous accompagne dans cette épreuve-là. et qui va avoir les mots rassurants, qui va pas être lui en panique, parce que nous on est en panique, la personne est en panique, tout le monde est en panique, ça va pas le faire. Effectivement, donc vraiment une personne ressource, c'est important. Et la troisième chose à faire, bon, c'est un peu bête, mais il faut avoir de la batterie parce qu'il faut appeler quand même les secours.
Mais c'est vraiment important
parce que effectivement, appeler les secours, c'est une chose à faire.
C'est primordial.
C'est primordial.
Alors Juliette vous demande, à quel moment vaut-il mieux renoncer à l'aller là? Alors, à quel moment il vaut mieux renoncer à aller à la maternité pour accoucher chez soi plutôt que dans la voiture?
Moi, je pense que le moment le plus important pour se dire que voilà, on va plus à la maternité, ça ne sert plus à rien, c'est vraiment quand on sent que ça pousse dans les fesses. Une fois qu'on sent que ça pousse dans les fesses, faut se dire que là, c'est bon pour accoucher sur place.
Avant. Faire dans les reins, ouais. Fesses et tout ça, là, c'est que.
Franchement, c'est que ça y est. Là, on est à 2-3 minutes maximum de l'expulsion de la tête du bébé, clairement, parce qu'en fait, ce qui se passe au niveau mécanisme physiologique, c'est que la tête du bébé. Donc, la partie crânienne du bébé pousse sur le rectum, parce que ça veut dire qu'en fait, il est le plus proche de la sortie. Donc, il est vraiment au niveau du plancher pelvien.
Et là, franchement, et là, ça fait bizarre.
C'est parti pour...
C'est vrai.
De toute façon, les contractions, en vrai, elles vont commencer au début de façon irrégulière.
Voilà, et après, parce que là, vous dites 2-3 minutes. Ouais. Mais si on habite à une demi-heure, par exemple, de la maternité, c'est le cas de beaucoup de gens. Du coup, c'est... Combien de minutes entre les contractions? Il n'y a pas un truc à savoir?
En fait, dès que les contractions elles commencent à s'accélérer et qu'on ressent cette poussée au niveau des fesses, clairement, il faut rester à la maison et accoucher. Par contre, s'il y a juste les contractions, on n'a pas encore la sensation de poussée, on peut se dire, allez, je tente ma chance.
Et au pire,
je
prends la voiture.
Et au pire, dans le coffre. Exactement.
Dans tous les cas,
exactement.
Mais cette sensation, parce que vous ne connaîtrez jamais ça, hein, docteur Pforzdorf, docteur Muller.
Ouais.
La sensation du truc qui va dans les fesses, quoi. Et cette espèce de voilà, comme ça, on se dit, bon, bah là, il faut expulser, les gars.
Nous, on tient le volant, on essaie de faire en sorte de ne pas prendre un platane.
Exactement. Moi, je pense que vous en faites beaucoup sur la douleur de l'accouchement.
Oh là là,
il vous cherche, Camille,
il vous cherche. Docteur Muller, là, ça va arriver.
Mais vous allez perdre votre diplôme, là. Je vous le dis tout de suite. Hein.
Sage-femme, tu parles.
Ouais, là, franchement.
Alors, Violaine vous demande s'il y a une position à privilégier pour accoucher.
Il n'y a pas de position à privilégier.
Même si j'imagine que le réflexe, c'est de se mettre sur le dos, là, quand on est seul.
Franchement... On croit souvent à quatre pattes, on dit les gros bébés, c'est bien à quatre pattes parce que du coup, en fait, ça leur permet de descendre plus facilement. Et c'est plus facile d'expulser le gros bébé à quatre pattes parce que, en fait, la position, elle est plus adoptée pour ce type de poids de bébé. Par contre, il n'y a pas vraiment de position à adopter, c'est vraiment le ressenti de la maman. Elle va sentir dans quelle position elle va se mettre pour faciliter vraiment la naissance de son enfant. C'est vraiment elle, il y a des positions qu'elle ne va pas supporter. C'est aussi simple que ça. Par exemple, il y a des mamans qui ne supportent pas être sur le dos parce qu'en fait, ça leur fait trop mal. Parce qu'en fait, ça dépend vraiment de l'accommodation du bébé à l'intérieur d'elle. Donc, naturellement, elle va se dire, il faut que je me mette sur le côté. C'est là que je vais le mieux accoucher parce que je vais vraiment me sentir bien. Mmh. Et en fait, le bébé, tout doucement, lui aussi, va prendre un petit peu ses marques et il va sortir naturellement.
Alors, beaucoup de questions sur le cordon ombilical. Guéna vous dit, que faire si on voit que le cordon est enroulé autour du cou de bébé?
Donc, on panique pas. On a hyper envie de paniquer. Il faut vraiment pas paniquer parce qu'il faut se dire que quand ça arrive. Donc, il y a des bébés qui jouent avec leur cordon ombilical, ils se font des petits colliers. Ça arrive. Il faut pas paniquer. Logiquement, en fait, la logique fait qu'en fait, on a envie de retirer le cordon autour du cou de l'enfant et il faut le faire. C'est exactement ce qu'il faut faire. Il faut pas attendre qu'il devienne bleu. Ça prend un petit peu de temps avant qu'il devienne bleu. Ça prend facile une minute, donc 60 secondes. Ce que je disais tout à l'heure, c'est très long pour nous, mais en fait, c'est hyper rapide. On déroule tout doucement, délicatement le cordon autour de la présentation, donc de la tête du bébé. Et tout va bien se passer.
Pour vous, ça, c'est la routine, hein, il faut le dire, parce que nous, ça nous paraît à chaque fois un monde.
Oui, alors moi, ça m'est arrivé. En fait, j'ai pas accouché toute seule, mais il y a eu cette histoire de cordon pendant l'accouchement. Je l'ai su, donc du coup, c'était hyper stressant cette minute. Je sais pas combien de temps ça a duré, une minute ou plus. Et pour me débriefer, la sage-femme m'avait dit, mais en fait, vous, quand vous voyez le cordon autour du cou, vous pensez à une pendaison. C'est ça que vous avez comme image. Mais en fait, il respire pas encore avec sa bouche et son nez. Donc c'est juste que ça passe plus difficilement avec le cordon enroulé, mais ce n'est pas ce que vous croyez. Mmh. Et ça, du coup, ça m'avait quand même bien apaisée.
C'est important de le dire.
C'est ça. C'est vrai que la respiration du nouveau-né, elle ne se fait pas via les narines comme nous.
Stress massif. Parmi tous les 1 493 000 stress que j'ai eu pendant mes grossesses, c'était numéro 1 quand même, le cordon.
C'est vrai.
Alors que
C'est pas le plus,
c'est pas le plus flippant.
Ouais. Alors, il respire par le cordon, c'est ça que vous dites.
En fait, le cordon ombilical, il est relié au placenta, donc à la partie intérieure de la maman. Donc, c'est par là que l'oxygène passe. Donc, en vrai, le bébé ne respire pas par le nez.
Parce que c'est ça. Elle a eu raison de me le dire, parce qu'il ne
faut pas s'inquiéter.
A posteriori, je pense, me connaissant, que j'aurais vraiment eu besoin d'un soutien psychologique, quoi. Donc là, elle a évité quand même.
Cela dit, ça peut valoir le coup d'en mettre un en place quand même.
Mais il y est, enfin, depuis qu'ils sont nés. Je ne sais pas quoi vous dire. Voilà.
Avec un coach ou quelqu'un qui donne des bons conseils. Anne vous demande, est-ce que plus on a d'enfants, plus les accouchements sont rapides?
Oui. C'est vrai. Plus on a d'enfants, plus les accouchements sont rapides parce qu'en fait, le corps a extrêmement bonne mémoire. Donc, il se rappelle exactement de ce qu'il faut faire quand en fait, les contractions démarrent. Mm-hmm. Et donc, ça va beaucoup plus rapidement. De plus, l'utérus est beaucoup plus distendu. Donc, il y a plus de place. Donc, il y a beaucoup plus de la facilité d'accoucher rapidement. Donc, plus on a d'enfants, plus on accouche vite.
Mais donc, Constance qui envisage d'avoir un quatrième enfant.
Ah oui.
Vous me disiez tout à l'heure pour rigoler, il va falloir qu'elle dorme sur le parking les derniers mois.
Franchement,
Il y a le risque que ça se reproduise à nouveau.
Il y a beaucoup de facteurs aussi qui jouent, notamment le poids de l'enfant. Plus il est petit, plus il glisse. Il y a aussi les limites osseuses du bassin. Donc plus on a un grand bassin, plus l'enfant aussi a de l'espace. Mmh. Il y a le fait aussi que ça soit un accouchement prématuré. Donc l'enfant est il est toujours plus petit, donc il glisse. Donc il y a beaucoup de facteurs qui interviennent. Mais effectivement, pour Constance qui a eu déjà 3 enfants, on considère qu'à partir de 3 enfants, on est déjà une multipare. Donc on a fait le grand travail. On a déjà beaucoup d'enfants. Mmh. Donc le quatrième effectivement, elle campe devant l'hôpital.
D'ailleurs, quand une maman appelle la salle d'accouchement, la première chose qu'on fait, c'est de regarder si une primipare ou pas.
Deuxième part, mais c'est vrai, même quand elle arrive en salle,
ça fait partie du truc.
La première chose qu'on regarde.
Oui, c'est souvent la question.
Parce que en fait, si une dame elle arrive, elle contracte toutes les 5 minutes et que c'est son premier bébé, clairement, on ne va pas la prendre après celle qui a 4 enfants et qui contracte toutes les 5 minutes, on prendra celle-là en premier. Mmh. C'est une question de priorité parce qu'on se dit, ça ira d'office plus vite.
Bien sûr. Mmh. Alors Aurélia vous demande, si on accouche à la maison, quel matériel prévoir? Doit-on désinfecter une zone en particulier, du coup, dans la maison en prévention?
Non, il n'y a pas de zone à désinfecter. Pourquoi? Parce qu'en fait,
les mains du mari, germes... peut-être quand même.
Non. Il sait bien s'il a des gants, pas les gants de cuisine, des gants synthétiques, c'est bien. Ouais. Mais en vrai, il n'y a pas de nécessité de désinfecter n'importe quelle zone parce qu'en fait, ça reste les germes de la maman et du papa. Cet enfant, il sera amené après son court séjour à la maternité à revenir à la maison. Donc clairement, il ne faut rien désinfecter du tout. Par contre, ça, c'est bien de se laver les mains parce qu'il sort quand même d'un milieu stérile. Mm-hmm. Il va arriver dans un milieu qui est colonisé de germes. Mm-hmm. Mais en vrai, de vrai, c'est la nature, c'est extrêmement bien fait et c'est bien comme ça.
Mais on n'a pas besoin, du coup, elle demande de matériel?
Franchement, à part la couverture, si on a un petit bonnet, c'est bien. C'est chouette parce que les enfants, ils perdent souvent de la température.
Généralement, là, parce qu'on accouche à la maison, mais on a déjà sa valise de maternité qui est prête.
Exactement, c'est ça. Donc, la petite couverture du bébé, le bonnet. Et franchement, il n'y a pas de matériel stérile à avoir parce qu'on ne va pas demander de sectionner quelque chose de façon aseptique. Donc, il n'y a pas de...
Pourquoi dans les films, ils demandent une serviette mouillée chaude?
Parce qu'on se dit...
C'est dans la petite maison et la prairie, c'est ça. Vite, de l'eau chaude, vite, dépêchez-vous.
De l'eau chaude et de
serviette. Ça sert à rien. Clairement, nous, on n'utilise pas d'eau chaude du tout à la maternité. C'est vraiment, en fait, on se dit, c'est question de température pour le nouveau-né, mais en soit, on ne le lave pas. On le pose sur la maman en peau à peau.
Ouais, et couverture.
Il tient bien, ça tourne la couverture. Je ne sais pas pourquoi toujours on demande de l'eau chaude.
C'est Charles Ingall qui dit, apportez-moi, il fait l'erreur comme ça, apportez-moi tout de suite de l'eau chaude et un torchon.
Dans Robin des Bois aussi, amenez-moi un couteau et de l'eau chaude. Ça me stressait quand j'étais petite.
Qu'est-ce qu'il
fout de l'eau chaude?
Et le couteau,
c'est vrai. Vous posiez déjà ces questions, c'est incroyable.
Pas
même
bête,
petit,
pour nettoyer l'eau chaude, en fait, effectivement, ça détruit les germes. J'ai pas pensé, mais c'est vrai que ça peut être intéressant quand on n'a rien de nettoyer. Après, on n'utilise pas un couteau à la maison pour faire quoi que ce soit. Non. Mais peut-être à l'époque, je me dis pour désinfecter parce qu'on stérilise les biberons avec l'eau bouillante. Oui. Donc c'est vrai que l'eau chaude pour nettoyer tout ce qu'on utilise en matériaux pour
couper le cordon, si
couper
c'est
le cordon
facile,
avant
pour le tenir.
Alors justement sur le cordon, il y a pas mal de questions. Est-ce qu'on doit le couper?
Non. Surtout pas, parce qu'en fait, on n'a pas le matériel nécessaire à la maison. Un cordon, ça se sectionne de façon aseptique. Donc, dans une plus grande hygiène, donc avec beaucoup d'hygiène, c'est hyper important parce qu'il y a beaucoup de risques d'infection. C'est une voie d'entrée aux microbes, en fait. Donc, on attend que, effectivement, les secours arrivent. Mm-hmm. Et eux ont souvent le matériel nécessaire et ils font le nécessaire. Après, un bébé qui est accroché encore à son placenta, il ne faut pas s'inquiéter. Hein. C'est bien. Hein. Au contraire, ça va lui donner une surcharge de globules rouges, donc plus d'oxygénation. Donc, il ne faut vraiment pas s'inquiéter. Il peut rester avec son placenta. Le bébé, le placenta, tout sur la maman, on enroule le paquet et c'est bon.
Merci Khadija Traoré, merci beaucoup à Constance d'être venue nous voir dans la maison des maternelles. Écoutez, on est le 17 décembre, je vous cache pas que là, pour nous, c'est les vacances. Pour vous aussi, j'espère aussi, sans doute. Donc, pendant 15 jours, petite pause du podcast des maternelles. Bien sûr, il y a tellement d'épisodes que vous pouvez écouter les précédents, mais surtout profitez des 15 jours pour venir me voir sur les réseaux sociaux, sur Instagram surtout, pour me dire s'il y a des sujets que vous souhaitez voir abordés. en podcast, ou dans l'émission d'ailleurs, mais surtout en podcast. Donc vous n'hésitez pas, vous venez. Moi, je vous souhaite à toutes et à tous de très belles fêtes de fin d'année. J'espère que vous êtes avec vos proches, j'espère que tout va bien pour vous. Et si vous êtes enceinte, mesdames, félicitations, vivez bien la fin de votre grossesse. Et messieurs, si votre femme est enceinte, si votre compagne est enceinte, eh bien profitez bien et préparez-vous, car vous allez vivre une sacrée aventure. Allez, salut tout le monde, bonne fin d'année, ciao.